L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et
Elsa. Bienvenue dans cette nouvelle édition de L'un dans l'autre, le magazine d'info locale de Radio B. Bonjour Perrine.
Bonjour Elsa, bonjour à toutes et à tous. Le mois dernier, l'AFPA, par le biais du dispositif Village des Solutions, organisait une matinée consacrée à la féminisation des métiers traditionnellement masculins. Un sujet qui traverse notre territoire. Comment ouvrir l'accès aux métiers du bâtiment, de la mécanique, du transport ou de la sécurité, voire de l'industrie, aux femmes qui souhaitent s'y former. Sur place, plusieurs structures se sont mobilisées pour informées, accompagnées et des femmes qui se sont reconverties dans des métiers dits masculins viennent soutenir leur père et témoigner. Le CIDFF de l'Ain, le Village des Solutions, mais aussi une femme directement concernée, ont répondu à nos questions lors de cette matinée. On vous propose ces trois rencontres afin de comprendre les enjeux, les freins et les possibles.
Tout de suite après les brèves.
L'un dans l'autre, les brèves. Lancement d'un groupe de parole pour femmes ayant vécu une situation de violence conjugale.
Ce groupe de parole s'adresse aux femmes ayant subi des violences et qui n'ont pas la possibilité d'utiliser leur voix pour être entendues. Ces séances mensuelles seront animées par une psychologue clinicienne, Émilie Campagna, membre de l'association Psychotraumatisme et Résilience, et Sandra Priolet, infirmière. Ces deux professionnels utiliseront la méthode de la médiation au photolangage. À chaque séance, une question abordant l'impact des violences est proposée. Le choix d'une photo permet de débattre d'une question en se décalant du récit traumatique.
Ces groupes permettent aussi de rompre l'isolement qui peut s'être installé et de prendre conscience que l'on n'est pas seul à avoir subi ces mêmes violences.
Prochain groupe de parole programmé en 2026, dès le mercredi 14 janvier. Pour participer au groupe, l'intégration se fait suite à un entretien avec la psychologue. Pour vous renseigner, vous pouvez contacter par mail psychotraumatismeresilience@hotmail.com.
Respire, un nouveau dispositif pour aider les jeunes Indinois victimes de prostitution.
Environ 15 000 mineurs en France seraient victimes de prostitution, dont 60% seraient bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance. La très grande majorité seraient des filles, avec une moyenne d'âge de 15,4 ans. Quand on parle de prostitution, on parle d'une personne qui consent à des actes sexuels, de quelque nature qu'ils soient, contre une rémunération ou un avantage en nature, qui peut se traduire par un cadeau, un repas ou une sortie.
Dans l'Ain, un premier diagnostic avait recensé une cinquantaine de situations.
Face à ce constat, libérer la parole sur ce sujet est un enjeu pour repérer la prostitution des jeunes et agir. Le dispositif Respire est porté par le département de l'Ain avec l'Ain Invema, l'association d'aide aux victimes et médiation dans l'Ain. Respire, c'est donc une ligne téléphonique, le 06 86 16 33 77, accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Si vous êtes jeune victime de prostitution, famille, amis, professionnels au contact d'enfants et d'adolescents ou professionnels de santé et du médico-social, vous pouvez contacter ce numéro. Les échanges téléphoniques ont pour vocation de repérer les situations à risque, d'être écoutés sans jugement, de sécuriser les jeunes menacés et ou exploités afin de les protéger.
Le dispositif d'hébergement hivernal dans le département de l'Ain.
Pendant la période hivernale, comme chaque année, une veille saisonnière est activée du 1er novembre au 31 mars. Dans l'Ain, l'État renforce les capacités d'hébergement d'urgence qui se déclinent selon quatre axes. Plus d'hébergements d'urgence, donc, 230 places viennent s'ajouter aux 611 ouvertes sur le département toute l'année. Ces nouvelles places sont réparties en logements de plusieurs tailles, dortoirs, chambres solo et jusqu'à 6 places afin de proposer des hébergements qui correspondent à la composition des familles.
Des accueils de jour sont mis en place sur plusieurs villes comme à Bourg-en-Bresse, Amberieu-en-Bugey, Gex, Oyonnax et Val-sur-Rhône.
Ces dispositifs permettent une mise à l'abri durant la journée avec boissons chaudes et repas et écoutés par des travailleurs sociaux. Il existe aussi des permanences mobiles sur le département. Des maraudes aussi, qui consistent en un déplacement de professionnels ou de bénévoles au contact des publics en situation de vie à la rue pour leur proposer assistance et orientation vers les accueils de jour ou dispositifs d'hébergement. Et enfin, un numéro d'appel, le 115, disponible 7 jours sur 7, qui peut être joint par les personnes en besoin de mise à l'abri, mais aussi par les personnes souhaitant aider une connaissance en situation de fragilité.
L'Ain dans l'autre, l'interview. On commence tout de suite avec le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. L'association est le premier réseau pour l'accès aux droits des femmes en France. Elle les accompagne dans tous les domaines de leur vie, notamment leur orientation, leur formation et leur insertion professionnelle, avec Claudina Lobos. La coordinatrice du service emploi nous explique comment l'association agit sur le terrain. Déconstruction des stéréotypes, accompagnement individuel, visibilité des métiers techniques et comment ces actions changent concrètement des trajectoires. Claudina Lobos, bonjour. Vous êtes coordinatrice du service emploi au CIDFF de Lens, qui accompagne les femmes dans leur parcours professionnel. Quels sont les freins principaux que vous observez chez les femmes qui envisagent une reconversion dans les métiers techniques ?
Alors déjà, le premier frein, je dirais, c'est le frein qu'elles ont dans leur tête ou les représentations, puisqu'elles n'ont pas l'idée de s'orienter vers les métiers techniques ou genrés ou du bâtiment ou de l'industrie où on voit beaucoup plus d'hommes occuper ces postes-là. C'est un des premiers freins, donc pas des moindres. Donc l'idée, c'est de le lever. Et aussi un frein qui peut être d'ordre financier, puisque pour certaines d'entre elles, elles ont parfois pas de CPF et n'ont pas pu capitaliser un budget. Et on sait que ça peut être une entrave à un projet de reconversion.
Donc quel est votre rôle aujourd'hui ? Comment allez-vous accompagner les participantes ?
Première chose qu'on va pouvoir faire, nous, au sein du service emploi du CIDFF, ça va être d'ouvrir le champ des possibles et les représentations qu'elles pourraient avoir en leur faisant découvrir des secteurs qu'elles ne connaîtraient pas et pour lesquels elles n'ont pas forcément d'attirance, puisque l'inconnu peut faire peur. Donc ça va être une première des choses où on va les amener voir des partenaires. Et l'importance aussi du réseau qu'on peut avoir, nous, au quotidien, pour ouvrir avec elle ses portes.
Les métiers du bâtiment, de l'industrie ou du transport restent, comme vous l'avez dit, très masculins. Selon votre expérience, qu'est-ce qui change concrètement pour une femme qui franchit le pas ?
Ça peut être une reprise de confiance en elle, avec une fierté de se dire qu'elles ont été capables de franchir ces obstacles-là. Et une fierté aussi pour ouvrir ces mêmes portes à d'autres femmes. Puisqu'on voit que certaines entreprises ont fait ce choix-là de féminiser leur métier, de tout faire et en faisant la promotion de leur métier, en allant chercher les partenaires de l'emploi et de l'insertion, et d'avoir cette fierté-là d'avoir pu le faire.
Alors on parle souvent de questions pratiques, la garde d'enfants, la mobilité. Ces aspects sont-ils vraiment déterminants dans la décision de se reconvertir ?
Ah oui, oui, oui. Toutes les femmes que j'ai pu accompagner vont toujours englober leur organisation familiale, l'organisation des enfants, le bien-être de leurs enfants avec des activités, avec un rythme qu'elles veulent pas leur imposer, les lever trop tôt, les récupérer trop tard le soir et ça fait partie d'elles. En tout cas, sur celles que j'ai pu rencontrer, et ça conditionne grandement leur projet de reconversion. Quand on travaille avec elles, on va aussi travailler sur la place qu'elles veulent prendre et puis l'exemple qu'elles pourraient donner aussi quand elles ont des enfants, alors que ce soit garçon ou fille. C'est vrai que d'être une maman qui travaille et dans un métier à dominante masculine, ça peut aussi envoyer un message fort aux prochaines générations.
Est-ce que ça peut être un obstacle à un moment donné, justement, le fait de prendre soin de sa famille ?
Alors ça pourrait l'être, j'ai envie de dire c'est aussi une sensibilisation des entreprises puisque on peut travailler les choses avec le public accompagné, mais sans que l'autre et la deuxième partie, l'employeur, soit sensibilisé à ça. Effectivement, c'est important que les entreprises puissent se dire je suis avec une femme qui est peut-être seule, l'organisation va peut-être influer sur le ton ou les enfants seront un peu plus malades et cette flexibilité doit être partagée.
Alors avez-vous des exemples de réussite de femmes que vous avez accompagnées vers ces secteurs et qu'est-ce qui fait la différence dans un parcours qui fonctionne ?
Alors un parcours réussi, nous, ça a été le parcours d'une femme que j'accompagne encore maintenant, qui après avoir visité des ateliers, elle n'avait pas du tout l'idée d'aller travailler sur les métiers de l'industrie, de la logistique, et aujourd'hui c'est son projet. Ce matin, ça va être aussi un engagement de notre part de poursuivre avec elle ça, puisque c'est réussi en partie. Elle a ouvert les freins qu'elle avait en tête, de se dire « je peux le faire ». Et maintenant, on doit faire la deuxième partie qui va être avec les entreprises, que ce soit l'égalité ou l'accompagnement vers tous les métiers, c'est vraiment du quotidien. Et ça fait partie de nous, dans notre ADN en tant que CIDFF, mais aussi les partenaires de l'emploi et de l'insertion. Il faut qu'on se connaisse et on se reconnaisse pour vraiment les accompagner à pousser les portes et mettre le pied dans la porte même.
Claudine Allobos, merci.
Merci.
Merci donc au CIDFF de l'Ain pour cet éclairage. Une structure qui continue jour après jour à ouvrir des portes et à rendre des parcours possibles. Nous partons à présent à la rencontre de Ange-Marie. En effet, comment comprendre les enjeux de la féminisation sans écouter les premières concernées ? Ange-Marie raconte son parcours, ses espoirs et ce que peut apporter un événement comme celui-ci lorsqu'on envisage d'entrer dans un métier encore très masculin. Alors, pouvez-vous vous présenter et nous dire ce qui vous amène à participer à cette demi-journée du 14 octobre ?
Je me nomme Ange-Marie, je suis ivoirienne, je viens de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je participe parce que grâce à Madame Claudina Lebos, qui s'occupe éventuellement des femmes et qui nous aide beaucoup, qui m'a appelée pour me dire que par rapport à mon métier de travailler en industrie, je pourrais être parrainée. Parce qu'après deux échecs au GEC, je me suis dit que ça serait bien d'être parrainée. Ça peut encore plus me motiver et je sais que à travers ce parrainage, je pourrais travailler. Donc, du coup, ça m'a motivée et raison pour laquelle je suis présente aujourd'hui. Et encore pour plus encore découvrir le métier de l'industrie, savoir les avantages et nos femmes aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut apporter dans le métier de l'industrie.
Est-ce que le fait que ces métiers soient très masculins représente une appréhension pour vous ou au contraire peut-être une motivation ?
Aujourd'hui, le métier de l'industrie, c'est un métier qui est ouvert. Certes qu'en avant, c'était pour les hommes, parce que les hommes, ils ont plus de temps. Et nous, les femmes, on a des enfants, on a ceci, on a cela. Donc, du coup, on s'était dit que ce n'était pas fait pour nous. Mais aujourd'hui, avec plus de recul, on se rend compte qu'on peut aussi apporter quelque chose à l'industrie. On peut apporter notre savoir-faire qu'on fait à la maison, de gérer les choses, montrer que nous, femmes, pas seulement la cuisine, pas seulement les enfants, on peut offrir notre potentiel aussi au monde de l'industrie.
Qu'attendez-vous concrètement de cette matinée de rencontres et de découvertes à l'AFPA ?
Aujourd'hui, mon attente, c'est que je puisse rencontrer de différentes personnes qui peuvent me donner un déclic plus encore pour me dire que j'ai raison de choisir ce métier. Montrer aux autres aussi que je peux apporter quelque chose, pas seulement parce que je n'ai pas fait de stage ou pas parce que je ne suis pas encore rentrée en stage, mais j'ai la volonté et je sais que cette volonté, déjà, elle est vraiment importante. Donc aujourd'hui, ce que j'attends, c'est que je puisse encore apprendre et aussi comprendre et aussi savoir de quoi est composé le métier de l'industrie à travers toutes ces femmes et tous ces hommes qui sont là.
Alors, si vous deviez donner un conseil à une autre femme qui hésite à se lancer dans une reconversion vers le secteur industriel, qu'est-ce que vous pourriez lui dire ?
Bon, je pourrais lui dire de ne pas avoir peur, déjà, parce que je sais que c'est difficile pour nous femmes, parce que l'organisation avec les enfants, c'est compliqué. Mais je sais qu'avec la motivation et aussi la volonté, on peut y arriver, de ne pas se limiter, de ne pas avoir peur. Déjà, ce qu'on fait à la maison est déjà compliqué. Donc, du coup, juste se lancer et au fur du temps, on pourra montrer aux hommes comme à d'autres personnes notre compétence et c'est important.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci pour ce témoignage qui dit bien les freins, mais aussi l'envie d'avancer et de trouver sa place. Pour terminer et élargir les perspectives, nous laissons la parole à Catherine Dumas, chef de projet du Village des Solutions. Ce dispositif rassemble les associations et institutions du territoire autour d'objectifs communs, lever les obstacles à l'emploi, encourager les reconversions, rendre visibles des métiers encore trop méconnus des femmes. Madame Dumas revient sur la philosophie de cette action collective, sur ce qui se joue lors de ces matinées partenariales, mais aussi au sein des entreprises. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement à nos auditeurs et nos auditrices, s'il vous plaît ?
Oui, bonjour, je suis Catherine Dumas, je suis chef de projet du Village des Solutions, qui est un collectif de partenaires autour de l'AFPA de Bourg-en-Bresse.
Village des Solutions, vous pouvez nous en dire plus ?
Le Village des Solutions, c'est un label interne à l'AFPA qui mobilise des partenaires d'un territoire pour mutualiser des énergies, des moyens, des compétences et pour essayer de trouver des solutions ensemble aux problématiques des publics qu'on peut tous accompagner autour des freins à l'emploi. La mobilité, la parentalité, le logement, le numérique, l'entrepreneuriat, la santé. Voilà, on se réunit pour mettre en commun en fait nos compétences pour aller chercher des solutions ensemble.
Donc l'objectif, c'est de remettre les personnes dans le circuit de l'emploi ?
Oui, on est sur le champ de l'insertion, de la formation, de l'emploi.
Alors, pouvez-vous nous présenter l'événement du jour organisé autour de la féminisation des métiers traditionnellement masculins et ce qui a motivé l'organisation d'une telle journée ?
Eh bien, dans le cadre du Village des Solutions, on essaye de travailler sur des thématiques qui correspondent au plus grand nombre des partenaires. Et la question de la mixité dans l'emploi, la formation revenait régulièrement. Nous, du côté de l'AFPA, c'est vrai qu'on a des formations dans le métier du bâtiment, de la mécanique, de la carrosserie, où, quand je suis arrivée il y a 2 ans, il n'y avait pas de femmes. D'autres organismes de formation font le même constat dans le transport, par exemple. Voilà, c'est très peu féminin. Les statistiques nationales vont dans ce sens-là aussi. Et puis, du côté des structures partenaires village qui font de l'accompagnement, aussi bien de très jeunes comme l'école de la deuxième chance, le Prado, la mission locale, font le constat que les jeunes vont vers des métiers en fait qu'ils connaissent et que les filles vont très peu vers des métiers plutôt genrés, masculins. Et les structures d'insertion par l'activité économique ou les gens qui font de la reconversion professionnelle font aussi le même constat. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait travailler sur ce thème, donc on a passé du temps depuis novembre 2024 à réfléchir à quel levier nous pouvions avoir à notre niveau, hein, au niveau très local, pour que ça change. Au mois de mai, nous avons déjà fait un événement sur la mixité, mais là, c'était homme-femme, avec notamment la petite enfance, l'aide à la personne, etc. Et on voulait créer un événement pour les femmes. En se disant, nous voudrions accueillir des femmes et qu'elles puissent avoir accès à toutes les informations dont elles ont besoin pour aller découvrir ces métiers, en fait. Donc, avec des visites de plateau, des organismes de formation, mais aussi des entreprises et des salariés d'entreprises qui viennent témoigner de leur parcours. Et puis, tout un tas de partenaires qui facilitent la reconversion, comment je finance ma formation, la mobilité, voilà.
La non-mixité peut parfois être polémique. Est-ce que ça a pu être un frein à l'organisation de l'âge de la matinée ?
Pas du tout. On a assumé dès le départ ce choix, qu'on assume tous vraiment complètement ça. L'idée, c'est pas de ghettoiser. Il y a bien des hommes ce matin à l'accueil ou derrière les stands. Mais on se dit que voilà, il y a des questions que les femmes ont envie de poser aux femmes et qui facilitent l'échange en fait, hein, tout simplement. C'était dans ce sens-là.
Alors à l'issue de la journée, 5 candidates seront sélectionnées pour un accompagnement renforcé vers l'emploi. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce dispositif ?
Eh bien, nous nous sommes challengés en fait. Hein, nous nous sommes lancés ce défi pour que d'abord, ce travail continue. On a déjà des dates programmées pour nous revoir. Pour nous, ce n'est pas du tout abouti. Hein. C'est un travail au long cours qui porte ses fruits parce que je peux vous garantir qu'aujourd'hui, à l'AFPA, il y a des femmes dans tous les ateliers. On a rentré une formation de plombière lundi. Il y a 4 femmes dans le groupe. Donc, on est contents, ça bouge. Mais le travail n'est pas fini. Il y a un gros travail à faire du côté des entreprises qu'on a du mal à mobiliser. Celles qui viennent, c'est déjà des gens qui embauchent des femmes, hein, mais il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont, pour différentes raisons, hein, qui ont des difficultés à recruter des femmes. Et donc, on s'est dit, on va accompagner 5 femmes vers 5 entreprises. Et on va garantir le parcours. Nous, experts dans les différentes thématiques, s'il y a un problème de mobilité, on trouvera les solutions. S'il y a un problème de santé, on accompagnera. Enfin, on fera tout ce qu'on peut pour sécuriser le parcours, l'intégration et le suivi. C'est-à-dire que même après l'embauche, on sera présent. Voilà, on n'a jamais fait ça, hein, donc c'est une expérience. Mais on voulait des choses concrètes. Je pense que c'est comme ça que ça peut avancer quand on est, voilà, quand on est tous ensemble autour d'une problématique. Il y a plus de chances que ça marche, en fait.
Alors, au-delà de cette journée, quel message souhaitez-vous faire passer aux femmes qui hésiteraient encore à se lancer dans ces secteurs traditionnellement masculins ?
Alors, moi, je ne me permets pas de lancer des messages aux femmes. Je voudrais juste dire qu'avec mon expérience professionnelle, en fait, c'est que faut pas avoir peur. C'est vraiment ça, en fait. Faut pas avoir peur. Et ce qu'on voulait ce matin, on visait pas du tout le quantitatif, hein. On visait vraiment la qualité de l'accueil. Ce qu'on voulait, c'est que les femmes qui viennent, et elles sont venues nombreuses, on est très satisfaits, que les femmes qui viennent puissent être bien accueillies, qu'on puisse les écouter parce qu'elles ont une histoire de vie, elles sont pas là par hasard. J'ai rencontré une chaudronnière qui trouve pas d'emploi, qui comprend pas pourquoi, parce qu'elle a tous les diplômes, etc. Et que, voilà, les entreprises sont pas très ouvertes quand même dans notre département. Donc, faut que ça change.
Donc, il y a de l'éducation à faire auprès des entreprises aussi ?
Oui, alors de l'éducation. Je pense que si on les sécurise en leur disant « on va vous aider aussi à accueillir des femmes dans vos équipes » et à leur montrer qu'en fait, c'est une plus-value, qu'il y a de grandes chances qu'ils soient très, très contents et très satisfaits.
C'est quoi leurs freins ? Vous les connaissez ?
Alors, dans le bâtiment, ça m'a fatiguée un peu, mais j'ai beaucoup entendu parler de sanitaire. Et je trouve ça très réducteur, en fait. C'est souvent ce qu'on répond dans le bâtiment, alors que à la maison, on partage tous la même toilette. Hein, c'est pas un problème. Et les femmes, la plupart, ça leur pose pas de problème. Bon, il y a une loi, il y a une réglementation, mais... On a parlé avec la direction du travail, par exemple, sur la loi. Un vestiaire peut être partagé en temps. S'il y a des horaires affichés de telle heure à telle heure, c'est les hommes, de telle heure, c'est les femmes. Ça marche. Il y a des dérogations possibles. Donc, voilà, je pense que c'est toujours la peur hein, qui bloque. Hein. Ben oui, parce que ça bouscule un peu des habitudes. Hein, Nous, on le voit sur les plateaux techniques. Hein, accueillir des femmes, bah, même pour les formateurs. Ils sont contents, mais ça bouscule des habitudes.
Quel genre, alors ?
Bah, d'une manière, une posture, quoi. On fait plus attention. Mais c'est pareil quand on n'est qu'entre femmes, en fait. Quand on est entre pères, il faut être un peu plus attentionné. Il ne faut pas que ce soit la femme qui fasse le café tous les matins... ou qui balaye l'atelier, il y a des réflexes.
D'accord, des réflexes un peu archaïques, mais qui sont bien ancrés, et du coup, ça remet aussi, finalement, un peu des choses culturelles en question, c'est ça ?
Ah ben, complètement, hein, mais on a tous des stéréotypes, hein, vraiment. Et les femmes qui sont dans les métiers, par exemple, du bâtiment, disaient, bon... Il y a aussi une discrimination positive, c'est-à-dire « Ah ben non, tu ne vas pas porter ça, on va le porter. » Alors qu'elles ont juste envie qu'elles soient évaluées sur leurs compétences. Et c'est par gentillesse parfois, mais on fait une différence. Alors que professionnellement, il n'y a pas de différence à faire, clairement. C'est du vivre ensemble, hein, donc ce n'est pas simple de vivre ensemble. Travailler ensemble, ce n'est pas simple.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous écoutez L'un dans l'autre,
le mag d'info locale
sur Radio B.
L'un dans l'autre, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Perrine et merci Jimmy à la technique.
Merci Elsa et merci à vous pour votre écoute.
On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre magazine d'info locale.
Restez bien à l'écoute des bonnes ondes de Radio B.
En ligne ou sur 90 FM.
L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et Elsa.